Il me semble, de ce qu'on a entendu tout à l'heure, on avait à la fois des choses communes avec ce qui a été dit précédemment, et puis des nouveautés, hein, sur l'Algérie en particulier. Alors, je m'explique. Il avait été question, en fait, un peu du white gaze, hein, du regard omniscient des Blancs ou de la blanchitude dans les contextes états-uniens ou brésiliens. Je crois qu'il en est question encore avec Raphaël Gallien, parce que c'est une question aussi de chronologie, hein. On est vraiment dans le colonial ou quelque chose qui serait un peu mixte dans le cadre des États-Unis ou du Brésil. Alors que il me semble que Malick Aral a montré que, en fait, le regard, enfin, les Algériens, hein, qui se mettent en scène dans une sorte de singulier pluriel, dirait Jean-Luc Nancy, donc c'est pas juste un corps individualisable, mais c'est une nation, en fait, hein, qui est en train de se fonder et naître. Le regard, c'est peut-être celui de Dieu, donc voilà, et puis celui, en fait, du monde. Ça m'a semblé tout à fait intéressant qu'on n'avait pas auparavant, parce qu'auparavant, on avait effectivement toujours ce face-à-face, ce huis clos, hein, entre maître et esclave, en gros, hein, voilà, avec différentes formes, finalement. Et là, avec le cas algérien, on accède à autre chose. C'est effectivement une nation qui se fonde, mais dans le monde. Donc, on a ça. Et qu'effectivement, la dignité, c'est pas seulement la dignité par rapport au pied noir, au fond, hein, ou la France, mais c'est la dignité pour trouver sa place, en fait, bah, à l'ONU, etc., donc être digne. Donc, je pense qu'on a changé un peu de moment historique, là. C'était tout à fait intéressant. On a eu une transition, hein, entre la question de la folie, ce qu'elle permet de nous dire, hein, sur la dignité, hein, possible et surtout impossible, en fait, en contexte coloniaux. Et puis, ce moment, effectivement, d'émancipation collective, et avec, Nicolas en parlait, peut-être une relecture nécessaire de ce que c'est que la discipline. Voilà, brièvement, mais je vous laisse la parole, Sarah et Christine, pour vos commentaires et vos questions.
Tu veux que je commence cette fois-ci, Sarah?
Oui, vas-y, m'alterne. Vas-y.
Je vous remercie énormément. Effectivement, on a deux communications qui font un petit peu rupture et continuité à la fois. Alors moi, ce que j'ai trouvé qui pouvait se compléter entre vos deux interventions, enfin pas qui pouvait, qui se complète énormément, c'est le corps. En fait, le corps est d'un côté, on a plutôt un discours, et de l'autre, on a plutôt un espace. Et que, en fait, ce qui relie de l'espace au discours, on a vraiment la médiation corporelle. Et ça m'a marqué parce que Raphaël, vous nous avez parlé quand même beaucoup plus de discours délirant que du corps parlant ce discours délirant. Vous, Malika, vous nous avez parlé de cette performance de rue. Et là, c'est là qu'on touche vraiment ce que le corps apporte à nos études, parce que dans l'un ou l'autre cas, il est omniprésent, ce corps, et c'est lui qui performe à la fois la vie sociale de manière discursive et qui performe la transgression ou la conformité à des codes physiquement. Le corps est parlant avec sa physicalité, quoi. Donc, j'ai trouvé vraiment très intéressant de pouvoir atteindre le corps, même, alors bien sûr, corps colonial, corps colonisé. Là, j'avoue que ça m'a fait, en rapport avec la communication de Raphaël, je me suis demandé, et ça, je suis d'une ignorance, et j'avoue mon ignorance, en quoi le délire, je connais le délire, ce que Glissant appelle le délire coutumier, et qui est une notion extrêmement éclairante pour Glissant, et on le rencontre aux Antilles. Moi, j'en suis très familière de ce discours. C'est un discours de rue, alors qui peut être bien évidemment un discours interné aussi, qui est un discours qui met en scène complètement tout ce que vous nous avez dit. C'est-à-dire cette convocation du politique. Le discours délirant, le discours coutumier, ce que Glissant appelle le délire coutumier, excusez-moi, c'est toujours une parole sur le colonial, sur le système colonial. C'est une exacerbation et une révélation du coup de la logique profonde par le délire de ce qu'est l'oppression coloniale. Et on le trouve dans le discours antillais. Je pourrais vous transmettre si vous voulez, parce que je trouve cette notion vraiment extraordinaire de comment le délire c'est lui qui éclaire complètement. Et dans tous les romans de Glissant, dans les créations artistiques, on retrouve toujours cette figure de celui qui détient le délire coutumier. Voilà, j'avais juste une question parce que je ne veux pas être trop longue. Enfin, j'en aurai plusieurs, hein, mais Malika, vous avez fini par répondre à mes questions parce que je ne voyais pas de femme. Donc, vous avez fini par y répondre à la fin de communication. Donc, je ne pouvais plus vous poser ces questions. J'aurais juste aimé pour Raphaël, vous poser la question qui est plutôt, qui dépasse le cadre de du colonial, etc. C'est ce débat de Derrida face à Foucault qui m'intrigue parce que je ne connais pas parce que Foucault n'a jamais dit que le fou était exclu. Il dit que dans le discours de la raison, il faut exclure le fou. Et donc, je voulais en savoir plus sur, même si je comprends que ce soit une nouvelle forme de cogito, je suis entièrement d'accord. Mais je ne pense pas que Foucault me disait le contraire. Voilà, juste ça.
Il y avait plein de choses sur ce délire coutumier. Alors, c'est compliqué. Je n'ai pas compris si c'était quelqu'un c'était une individualité qui s'exprimait, qui exprimait ce délire collectif, ou c'était du collectif, parce qu'à Madagascar, on a le Ramanananzan, alors qui est un peu différent, mais qui est des sortes, alors qui ont été qualifiées d'hystérie collective, où en fait, on a toute une population qui descend dans la rue pour exprimer son mécontentement au 19e siècle contre un pouvoir, contre la monarchie merde, contre des déclassements sociaux, etc. Donc, j'ai pas bien compris si c'était individuel ou collectif.
Non, c'est moi qui me suis mal exprimée. C'est un délire verbal, délire coutumier, mais dans le cas des sociétés antillaises, c'est forcément un discours colonial, puisque c'est né dans la matrice. Il n'y a pas ce que Glissant lui-même appelle l'arrière-pays culturel. Ça n'existe pas. Le mot coutumier peut paraître trompeur. C'est pas ça. C'est le délire venant de la population, de classe populaire, de la population ayant subi l'esclavage, qui verbalise à travers ce délire qui verbalise les mécanismes profonds de l'oppression coloniale.
D'accord, d'accord.
C'est pas coutumier au sens, pardon, ça peut être trompeur. Ouais. C'est ou délire verbal ou délire coutumier.
D'accord, bah du coup j'ai du mal à rebondir, je ne connaissais pas du tout ce délire coutumier, je veux bien que vous m'envoyiez si vous avez des choses. Très très rapidement, parce que je crois que c'est une question vraiment compliquée, sur le débat entre Derrida et Foucault. Ils partent, en fait, le point de départ, c'est évidemment c'est Descartes, les méditations métaphysiques, et c'est la place que la raison, comme vous dites très justement, occupe, que la déraison occupe dans la raison. Mais Foucault, ce qu'on lui a longtemps reproché, et à la fin de sa vie, il reviendra complètement dessus, dans ses cours au Collège de France, notamment sur les anormaux, c'est que Foucault, malgré tout, je crois, fait de cette exclusion du XVIIIe siècle quelque chose de complètement extérieur à la folie. Le fou en tant que tel, il n'existe pas, c'est vraiment le pouvoir des médecins et l'extériorité des médecins, me semble-t-il, qui prime dans ce qu'il veut nous démontrer. Et Derrida va l'attaquer, je ne sais plus le titre exact je pourrais facilement vous le retrouver, de sa communication en lui disant qu'il exclut complètement le fou en tant que tel, entre guillemets, que ce fou, il n'est pas totalement fou, et que bien sûr, il y a cette extériorité des médecins, mais que le fou lui-même peut nous dire quelque chose et se doit d'être intégré dans ce geste d'exclusion. Voilà, c'était juste ça. Pour le dire, j'espère, assez succinctement.
Ouais. Alors, je vais répondre à un bout de question qui ne m'était pas adressée, simplement pour dire que en vous écoutant Christine au sujet de l'intervention de Raphaël, ça m'a beaucoup fait penser à un film sur l'Algérie de quelqu'un qui s'appelle Malik Ben Smaïl, qui a fait un film, je crois, en 2004 qui s'appelle Aliénation, où on a des mises en scène de presque exactement ce que vous décriviez, de gens qui utilisent l'histoire et utilisent la politique, ils l'utilisent dans le délire. On a un discours sur une mise en scène d'un discours sur l'histoire et la politique, qui, dans le cas algérien, du coup, est une histoire coloniale, mais c'est aussi l'histoire de la post-indépendance, notamment un des personnages les plus fréquents, c'est Boumediene, pour différentes raisons, et je trouvais que ça pouvait être intéressant comme point d'ancrage sur un espace tout à fait différent. Je voulais rebondir sur la question que vous posiez de ce que le corps apporte à nos études. Et parce que je me suis posé cette question avec mes festivités, et notamment une des questions qui me taraude un peu, c'est celle de savoir comment analyser ce qu'on est en train de décrire. C'est-à-dire, est-ce que, dans ce cas-là, la festivité traduit une transformation profonde qui est en train de s'opérer, qui ne date pas que de 1962, traduit aussi tout un travail politique qui s'est fait dans les décennies précédentes, traduit aussi le bouleversement politique qui va avoir lieu et le renversement, la défaite de l'Empire en quelque sorte, l'émergence d'un État, et que donc c'est une manifestation de quelque chose qui s'analyse par ailleurs, ou est-ce que ces festivités et ces manifestations du corps sont performative. Quel degré de transformation on peut, de pouvoir de transformation est-ce que on peut attribuer à cette expérience? Alors, c'est peut-être une façon de couper les cheveux en quatre, mais c'est une question qui me taraude. Alors, pour le moment, je me réfugie derrière ce qu'en disent les témoins. Mais évidemment, ce qu'en disent les témoins peut aussi varier selon le moment présent. Moi qui disent, voilà, celui qui a vécu ça. Il y a une témoin qui m'a dit un jour, j'ai de la peine pour vous, hein, j'ai de la peine pour toutes les générations qui n'ont pas vécu ça, parce qu'une fois qu'on a vécu ça, une fois dans sa vie, on peut tout supporter. Donc, quelque chose qui est de l'ordre de la transformation totale, de la construction, construction de soi, et en même temps, il ne faut pas séparer l'expérience festivité de la guerre, de la lutte pour l'indépendance, de la transformation de l'indépendance. Donc, comment analyser ce qu'on est en train de décrire? J'ai répondu par une autre question.
Sarah, oui, toi la parole.
Je vais faire court pour qu'on ne prenne pas plus de retard. Merci à tous les deux. Raphaël, en fait, je suis très... J'ai l'impression en fait d'avoir une anticipation peut-être sur un débat qu'on aura après avec Norman Ajari, parce que pour le coup j'ai l'impression qu'il y a une résonance qui va avoir lieu autour de la dignité de soi et puis et à travers la dignité du corps. Une brève question, vous avez parlé de Foucault et de Derrida qui du coup que vous utilisez pour votre appareil critique, je suppose. Et Fanon, en fait, vous en faites quoi? Parce que pour le coup, ça me semble imparable, en fait, dans la période que vous utilisez. Alors, certainement que vous l'utilisez. Là, vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout faire. Donc, voilà. En vous écoutant parler, en fait, j'entendais Fanon et je repensais à ses écrits sur la psychiatrie, que moi, je ne maîtrise pas. Donc, du coup, voilà, ça, c'était une question. Et Malika, en fait, je pensais à des artistes que je croise désormais dans un séminaire qui font des performances politiques. Et du coup, en fait, ça me faisait penser notamment à un qui s'appelle Dred Scott, qui est pour le coup africain-américain. Et le côté, en fait, parce que la performance, comme ils la décrivent les uns et les autres, ces artistes, c'est comment avoir quelque chose qui est à la fois de préparer, on a pensé à un déroulement avec certaines étapes, mais il y a le côté irruption dans l'espace public et dans des espaces où on ne vous attend pas. Où votre corps justement n'est pas censé être visible en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et du coup, je me disais, est-ce qu'il y avait des artistes aussi dans ces espaces-là et à ce moment-là qui, par exemple là sur la scène itinérante ou sur la scène qui est là, je suppose qu'il y avait peut-être des figures symboliques qui ont aussi incarné par leur figure, leur prestation, ce moment-là des festivités pour les gens qui étaient présents et puis peut-être pour l'histoire de l'Algérie aussi. Et la dernière chose que je pensais, c'est que est-ce que c'est pas finalement, c'est une question ouverte, hein, un mécanisme, ce moment particulier de prise de l'espace par la population, de performance voulue ou pas voulue, est-ce que c'est pas un impondérable en fait des décolonisations en fait, parce que je connais le Congo Brazzaville et il y a eu ça aussi à Brazzaville au moment de l'indépendance, et puis après dans les années suivantes il y a eu aussi la mise en scène par des défilés divers et variés en fait de l'indépendance acquise supposément réussie par toute une rhétorique à la fois dans la marche, dans les défilés, dans les fanions, dans les couleurs et autres. Et du coup, est-ce que quand on se libère d'une situation coloniale, question ouverte pour tout le monde, est-ce que ça passe pas forcément par ça en fait d'une manière ou d'une autre en fait. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a 5 minutes et pour qu'on perde pas trop de temps. Merci en tout cas. Comme vous voulez.
Oui, alors ça me refait penser à votre première remarque à la question de Christine Chivallon. Je réfléchissais en même temps. Évidemment, c'est vraiment, juste pour revenir très rapidement dessus, Foucault reproche à Derrida, ou Derrida reproche à Foucault, une certaine conception centrée sur elle-même de la philosophie, et Derrida voudrait, non pas qu'il nie toute possibilité de lecture externe, mais voudrait se recentrer à l'intérieur même de ses livres dans l'exploration de la raison et de cette interprétation de la raison. Voilà, c'était là-dessus sur un point. Alors, sur Fanon et sur Foucault Derrida que vous posiez, c'est comme ça que je m'en sers. Et sur Fanon, alors évidemment, je l'ai juste évoqué et je peux pas m'en... Mais je m'en sers énormément. Alors, il y aurait tellement à dire, mais peut-être juste, alors du coup, une différence vis-à-vis de Fanon, en quoi ça me... Voilà. Bon, Fanon, il a des cas de, je crois, de malades uniquement dans les damnés de la Terre, là, avec ses séries A, B, C, D, etc. Et peut-être que Fanon utilise ces cas de folie comme des phénomènes résiduels, voire pittoresques, d'hommes qui seraient en permanence affamés d'humanité, comme il le dit. Et tout l'enjeu chez lui, c'est celle de la réédition, de la réintégration de ces hommes, mais il a peut-être qu'une lecture un peu utilitariste de ces délires-là. Et alors évidemment, c'est partir de Fanon, mais pour prendre ces délires-là en tant que tels, et plus comme quelque chose de plus global, de polarisé entre humanité et inhumanité, comme il a tendance à le faire, mais on pourrait, je crois, en parler longtemps, voilà juste ce que je peux dire.
Je pensais juste à ça, en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Que je me suis lu sans être spécialiste. Et en fait, il y a pas mal de choses de description, en fait.
Après, peut-être justement dans ce livre où il y a sa thèse, il ne faut pas oublier que c'est quand même un organiste, enfin quelqu'un qui... Voilà, il y a un peu la recherche de l'organogénèse. Donc, il n'est pas... dans cette lecture du corps ou dans l'attention au délire, il y a une ambiguïté chez Fanon qui n'est pas... Voilà, il n'est pas à la recherche d'un nouveau paradigme d'éclaircissement de ces délires-là. Ça lui sert juste pour disserter sur quelque chose de plus large. Voilà. Mais oui, bien sûr, ces écrits de ça.
Merci.
Alors, sur la question des artistes, je n'ai pas pu identifier d'artistes nommément qui étaient là ou qui ont... des artistes dont on connaîtrait le nom, qui ont participé. Mais en même temps, il y avait des artistes partout et des gens qui faisaient de l'art partout. Juste il y a quelques jours, je suis tombée sur un témoignage de dans une petite ville. On a organisé une fanfare et on les a amenés très vite au maquis, tout à fait à la fin du mois de juin, pour les faire répéter, pour qu'ils puissent accompagner le défilé militaire des combattants dans Alger le 5 juillet. Mais par contre, il y a une répétition de la performance, c'est-à-dire que dans les années qui suivent, déjà au mois de novembre, avec la commémoration du 1er novembre, qui est l'anniversaire du début de la Révolution, et ensuite dans les années suivantes, sous le socialisme de Ben Bella et ensuite de Boumédienne, on a des manifestations qui clairement font appel au souvenir de la... des festivités de l'indépendance pour y puiser de l'énergie. Et là, pour le coup, on a davantage d'artistes. Tout de suite après l'indépendance, il y a le retour, par exemple, de tous ceux qui étaient en train d'étudier le cinéma à Moscou, et ils se mettent à filmer tout de suite. Et on va trouver des éléments de ce qu'ils ont filmé en 62 dans des films ultérieurs qui reprennent un peu cette dynamique et cette énergie. Mais dans les réactivations du souvenir des festivités, on a par exemple le PANAF de 1969 à Alger, où, à mon sens, on ne peut pas lire les images de foule autrement qu'avec en tête les images de 62, parce que les gens revivent quelque chose qui est de l'ordre de l'occupation de la rue, d'être partout, hommes et femmes dehors. Et en même temps, dans ces répétitions, il y a aussi un élément de déperdition, c'est qu'on s'éloigne de l'événement premier, on perd du coup de l'énergie, de l'enthousiasme populaire, au point où avec les années, ça devient un peu une coquille vide, les défilés un peu pseudo-militaires, avec une foule qui vient pour l'occasion, mais qui n'a pas du tout le même enthousiasme.
Merci.
Peut-être, en une minute, je voudrais juste dire deux, trois choses. Sur le débat autour de Fanon, en fait, il y a un article que connaît Raphaël et peut-être aussi toi, Sarah, d'Ouria Bentouami, qui est tout à fait intéressant, où elle fait le lien en fait entre Fanon et Merleau-Ponty, ce qu'il a retenu en fait de la phénoménologie, qui est très bourgeoise, européenne, blanche, tout ce qu'on veut. Et Merleau-Ponty sur ce terrain-là était pas forcément révolutionnaire, mais en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est la question du corps propre, donc qui est une question fondamentale de la phénoménologie, hein, et qui est à mon avis pour nous essentielle ici, c'est comment accéder à son corps propre, c'est-à-dire celui qui permet l'épanouissement de soi et pas en fait l'acceptation de l'aliénation, de la réification. Et effectivement, c'est quand on relit en fait le parcours de Fanon, enfin, il y a à la fois son incorporation peut-être de pensée révolutionnaire, de Sartre aussi, etc. Mais il y a cette question fondamentale, je crois, de le conquérir. Alors j'ai fait allusion très très rapidement, on en reparlera peut-être. On n'avait même pas échangé avec Nicolas là-dessus, mais on pourra peut-être le faire. Il y a ce fameux texte de Bell Hooks, The Oppositional Gaze. Donc où elle part en fait du point de vue des femmes noires, hein, qui sont toujours regardées, réifiées, etc. Et comment on peut renverser en fait, hein, le regard, donc construire un regard qui est un lieu. Elle cite Stuart Hall, et on avait une journée, on a au moins eu deux journées, Christine, autour de Stuart Hall. Mais la question en fait de la conscience qui décrypte. L'emprise qu'exerce il y a des hégémonies visuelles en particulier, hein, pour le retourner et alors on en a parlé tout à l'heure, pour travailler une reconnaissance de soi, donc une sorte d'auto-légitimité qui est nécessaire pour effectivement construire un monde viable. Et c'est ce qu'on a eu avec l'Algérie. Et moi, je repense, tout à l'heure, j'avais parlé de Samora Machel, pas pour évoquer les grands hommes, etc. Donc, ce premier président et ancien combattant de la guerre de libération du Mozambique. Donc, il était fan, je vous avais dit, de Joe Louis. Donc, j'imagine aussi de Jesse Owens, etc., parce que c'était quand même connu dans le monde. Mais il a été formé à Alger, en fait. Hein. Il a été formé à Alger comme soldat. Et je pense qu'en fait, l'Algérie, le Vietnam aussi, hein, qui était une grande référence pour beaucoup de révolutionnaires africains, ça a été une école, alors là, pour reprendre Nicolas, pour fonder des nouveaux corps politiques. Hein. Je pense qu'on pourra peut-être y revenir, mais en gros, l'intime, et un intime construit par l'histoire, et une géopolitique qui bascule dans les années 60-70, ça fait aussi partie des matrices de fabrication du corps. Et donc, je pense qu'on aurait tort à en rester qu'à des huis clos, puisqu'en fait, des connexions existent et sont aussi fondamentales, hein, pour fabriquer des alternatives à ces formes d'aliénation qui pèsent sur les corps.